Si je dois coucher sur le papier une expérience douloureuse, je ne vais pas essayer de la mettre en quatrain ni faire de la belle prose. Le prophète Osée a vécu une épreuve très douloureuse qui a duré pendant plusieurs années. Il nous la raconte car elle sert de support à la relation entre l'Éternel et le royaume israélite des 10 tribus du Nord. Seulement, il ne s'est pas contenté d'une histoire toute simple, il a travaillé le texte. En effet, en y regardant de près, on se rend compte qu'il a pris un soin méticuleux à structurer les 3 premiers chapitres du livre sous une forme concentrique. Le récit commence par un geste symbolique annonciateur de jugement. Osée doit épouser Gomère qui lui sera infidèle et 3 enfants naissent de cette union. Puis vient un oracle de salut pour Israël. Ensuite a lieu le second geste symbolique. Osée répudie sa femme Gomère, ce qui correspond au procès et au rejet d'Israël par l'Éternel. Puis vient un nouvel oracle de salut. Finalement, nous avons le troisième geste symbolique. Osée rachète sa femme devenue esclave et elle se repent de sa mauvaise vie. Pareillement, après l'exil et plus spécifiquement à la fin des temps, Israël reviendra à l'Éternel, son Dieu. Les 3 premiers chapitres du livre d'Osée se distinguent de tous les autres textes prophétiques des textes sacrés. Ce n'est pas l'utilisation d'actes symboliques pour communiquer avec Israël qui est unique en son genre, mais le fait que, d'une part, ces actes soient si intimement liés à la vie personnelle du prophète, et d'autre part, la conduite de sa femme lui arrache le cœur. Comme je l'ai dit, le mariage d'Osée et de Gomère représente la relation d'alliance entre Dieu et Israël, et l'adultère et la prostitution de la femme du prophète est une mise en acte de l'idolâtrie et des pratiques abominables des Israélites du Nord dont le niveau moral et spirituel était aussi bas que celui des Cananéens. Les noms des enfants que Gomère met au monde symbolisent les châtiments que l'Éternel va infliger à Israël Nord. Le premier annonce la fin de la souveraineté politique du royaume des 10 tribus dont Jéroboam II est le roi. Le second jugement déclare que Dieu retire son amour au peuple et le troisième annule la relation d'alliance qui avait été établie entre l'Éternel et les Israélites au mont Sinaï. Afin d'illustrer cette dernière menace, le prophète Osée répudie sa femme Gomère, une façon de signifier que l'Éternel rejette Israël Nord, qui dans le texte est personnifié sous les traits d'une épouse infidèle qui se prostitue. Sous le règne de Jéroboam II, la prospérité était à son zénith en Israël, et c'est sans doute une des raisons qui a conduit la nation à se tourner vers Baal, le faux dieu qui représentait la fertilité. En effet, les Israélites espéraient ainsi devenir encore plus cossus et bien dodus. Il faut aussi dire que les idoles n'avaient aucune exigence dans le domaine moral, ce qui arrangeait bien les affaires des païens, mais aussi des Israélites qui, sous des prétextes religieux, organisait des partouzes rablaisiennes. Mais l'Éternel va punir son peuple en lui retirant ses richesses pour qu'il se rende compte que ses idoles sont vaines et afin qu'il revienne à son Dieu. Pourtant, par la bouche de son prophète, l'Éternel fait suivre l'annonce de ses jugements par un message d'espérance. En effet, dans la situation d'extrême dénuement où se trouvera le peuple pendant l'exil, et qui est comparé à un retour dans le désert, Dieu parlera à son cœur et le transformera pour qu'Israël entre dans une relation nouvelle qui sera semblable à des refiançailles avec toute la fraîcheur d'un amour retrouvé. En inversant les noms d'annonce de jugement des 3 enfants, Dieu révèle qu'au-delà des châtiments, il reprendra Israël pour son peuple et accomplira envers lui la promesse qu'il a faite à leur ancêtre Abraham, selon laquelle ses descendants deviendraient nombreux et prospères. Osée s'est marié avec Gomère, qui lui a été infidèle, mais avec qui il a quand même eu 3 enfants. Après avoir fait un procès à sa femme, il l'a répudiée. En fait, elle s'en est bien tirée, car dans la loi de Moïse, il est écrit Quand un homme commet adultère avec une femme mariée, cet homme adultère et la femme adultère seront mis à mort. Certes, Gomère a eu la vie sauve, mais ayant été répudiée, elle est privée de soutien. Alors pour survivre, elle doit se vendre comme esclave. L'Éternel ordonne alors à son prophète d'aller la racheter et de la ramener chez lui. C'est le troisième volet de cette histoire racontée dans le troisième chapitre. Il sert à illustrer l'amour de Dieu qui, malgré l'infidélité d'Israël, le reprendra pour son peuple, car l'Éternel est un Dieu de grâce. Cependant, et comme son prédécesseur Amos, Osée rappelle que le salut des Israélites du Nord est lié à leur soumission à David, le nouveau roi David, c'est-à-dire le Messie Jésus-Christ. À partir du chapitre 4 et jusqu'à la fin du livre, la vie personnelle du prophète Osée est en sourdine et ses démêlés avec sa femme disparaissent du texte pour deux raisons. Premièrement, il semblerait que Gomère se soit réellement repenti, et deuxièmement, les gestes symboliques précédents n'ont plus besoin d'être répétés. Toujours par l'intermédiaire de son prophète, Dieu va continuer son réquisitoire contre Israël Nord, tout en marquant des pauses où il lui annonce sa future restauration comme peuple de Dieu. Avec le chapitre 4 commence donc un discours dénué de symbolisme. C'est une composition suivie d'un seul trait et qui contient l'essentiel, la quintessence ou, comme on disait au XVIe siècle, la substantifique moelle de toutes les prophéties qu'Osée a prononcées au cours de son long ministère. Tout bien considéré, si ce prophète a exercé une quarantaine d'années, comme on le croit, son livre est plutôt court. Je commence maintenant à lire le chapitre 4 qui passe en revue les fautes spécifiques au royaume des 10 tribus du Nord. Vous, les Israélites, écoutez la parole que vous adresse l'Éternel, car l'Éternel est en procès avec les habitants de ce pays. La vérité a disparu dans le pays. Il n'y a plus d'amour, on n'y connaît pas Dieu. Verset 1. Jusqu'à présent, l'Éternel a mis l'accent sur le péché d'idolâtrie d'Israël Nord, disant que son peuple lui a été infidèle en adorant d'autres dieux, et surtout Baal. Mais ici, il les traîne au tribunal, pour ainsi dire, afin de les accuser de péchés spécifiques qu'il va mentionner. Osée dit que l'Éternel est en procès. Le même mot hébreu traduit par procès revient trois fois dans le livre, sous sa forme verbale ou nominale. On l'a déjà vu quand, par son prophète, l'Éternel dit « Intentez un procès à votre mère, faites-lui un procès ». Et il revient une fois encore à la fin du livre quand Osée écrit « Contre Juda, l'Éternel intente un procès ». Le thème du procès entre Dieu et son peuple est relativement fréquent dans les Écritures. Ce procès repose sur une base légale. En effet, Israël a violé l'alliance de la loi que l'Éternel avait établie avec lui au mont Sinaï, ce qui donne le droit à l'Éternel, l'autre partie contractante, de porter plainte. Dieu a trois griefs principaux contre Israël et nous les retrouvons fréquemment tout au long de son discours. D'abord, l'immoralité en général, qui est suivie par l'ignorance religieuse entretenue par des prêtres avides de gain, et enfin, le culte idolâtre avec les partouzes qui l'accompagnent. Ici, l'Éternel reproche à son peuple le manque de bonne foi et de bonté des Israélites les uns envers les autres. On peut être sûr que les pauvres et les défavorisés, comme les veuves et les orphelins, étaient laissés pour compte. Pourtant, Dieu se soucie de ces pauvres gens, car par l'intermédiaire de la loi de Moïse, il ordonne « Quand vous ferez les moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les fruits qui y seront tombés. Tu laisseras tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » En Israël, sous le règne de Jéroboam II, c'était la loi de la jungle qui prévalait parce que le bien suprême que chacun recherchait et à n'importe quel prix était la prospérité matérielle. Cet état spirituel moribond avait pour cause l'absence de la connaissance intime et profonde du seul vrai Dieu et de sa volonté. Cette ignorance était particulièrement grave chez un peuple qui avait reçu la révélation divine. Mais justement, et comme cela apparaît un peu plus loin, le problème de fond résidait dans l'ignorance quasi totale des Israélites du Nord de la loi parce qu'elle ne leur était plus enseignée depuis longtemps. Je continue le texte. On y voit que par jure et tromperie, le crime, le vol et l'adultère se multiplient, la violence s'étend, les meurtres s'ajoutent aux meurtres. Verset 2. Les Israélites ont transgressé le décalogue en long, en large et en travers. Parmi les 10 commandements, 5 violations sont mentionnées. Le mot pour parjure veut également dire imprécation, c'est-à-dire une malédiction prononcée contre quelqu'un au nom de Dieu. Cette faute est à la fois contre le 9e et le 3e commandement. Les tromperies contre le 9e, le crime contre le 6e, le vol contre le 8e et l'adultère contre le 7e et le 10e. Mais dans les 3 premiers chapitres, les Israélites ont déjà été accusés d'idolâtrie, c'est-à-dire d'avoir violé les 2 premiers commandements qui sont « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles » et tu ne leur rendras pas de culte. » Fin de citation. Finalement, il ne reste que 2 commandements sur les 10 dont la transgression n'est pas mentionnée. On ne sait pas si les Israélites honoraient leurs parents. Par contre, au vu de leur condition morale et spirituelle, il y a tout à parier qu'ils ne respectaient guère le sabbat, sinon pour organiser des partouzes avec les prostituées sacrées au temple de Baal. Les 10 commandements, qu'on appelle aussi le décalogue, font partie de la loi de Moïse qui a été donnée au peuple hébreu. En réalité, cette loi comprend plusieurs centaines d'ordonnances qui peuvent être classées en 3 catégories. Il y avait d'abord un code civil avec des tas de règles, comme par exemple celle qui gérait la transmission des héritages et qui donc s'appliquait uniquement à la nation d'Israël. Ensuite, on avait les règles relatives aux fêtes religieuses et les prescriptions rituelles liées au fonctionnement du temple qui fixaient les modalités concernant les offrandes et les sacrifices d'animaux et qui définissaient le rôle des prêtres, leurs droits et leurs devoirs. Comme la précédente, cette catégorie d'ordonnances s'appliquait exclusivement aux Israélites sous le régime de l'Ancienne Alliance. Mais en troisième lieu, la loi comprend toute une série de règles qui est d'ordre moral ou spirituel et qui révèle la volonté de Dieu pour tous les hommes de tous les temps et qui donc nous concerne. Les 3 premiers commandements du décalogue sont spirituels de nature dans le sens qui se rapporte à la relation de tout être humain avec son Créateur. Quand il est dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te feras pas d'idole et tu ne leur rendras pas un culte, je dois obéir à ses commandements. » Quant au 3e, qui est « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper », il s'adresse également à moi. Le 4e concerne le respect du sabbat qui n'est plus une obligation sous la Nouvelle Alliance. Les 6 suivants, par contre, sont toujours d'actualité et je dois les respecter. Ils servent d'ailleurs de fondation à la culture judéo-chrétienne et au code pénal de la plupart des nations. Le meurtre, le vol ou le parjure, par exemple, sont punis par tous les tribunaux du monde, du moins en théorie. En effet, pendant la guerre en Irak, les barbouzes qui travaillaient pour le privé avaient la gâchette plutôt facile et, en toute impunité, se croyaient à la chasse aux lapins. Depuis les mouvements des années 60 du siècle précédent, certaines ordonnances morales de la loi de Moïse sont tombées en désuétude. L'adultère ne fait même plus froncer les sourcils et l'homosexualité est bien vue. Le viol reste encore un crime en Occident et ailleurs, mais dans beaucoup de pays, c'est la loi du silence qui prévaut ou alors on s'arrange. Pour ce qui est du tourisme sexuel et de l'esclavage, ils sont condamnés sur le papier, mais tolérés dans les faits. Nous vivons donc en plein marasme moral. Le croyant est citoyen du royaume céleste et à ce titre il est tenu de vivre à un niveau de moralité plus élevé que la loi de Moïse. Son appel terrestre est de se comporter comme son maître en se soumettant au Saint-Esprit qu'il a reçu quand il a cru en Jésus-Christ. Ce que Dieu attend de ses enfants se trouve dans le sermon sur la montagne et dans les épîtres du Nouveau Testament. Mais ces règles de vie ne sont pas un moyen d'acquérir le salut qui s'obtient exclusivement par la foi. Elles sont destinées à ceux qui font déjà partie du royaume. Après avoir accusé ses contemporains d'avoir enfreint 6 des 10 commandements du Décalogue, Osée dit aussi que les meurtres s'ajoutent aux meurtres. Il ne fait guère de doute que les crimes de sang restaient impunis en Israël, mais le prophète a peut-être aussi à l'esprit l'anarchie qui a régné après Jéroboam II. En effet, dans la même année, 3 rois se sont succédés sur le trône parce que les 2 premiers ont été assassinés. Le 3e est resté au pouvoir pendant 10 ans après avoir trucidé le 2nd qui avait trucidé le 1er, fils de Jéroboam II. Je continue le texte. C'est pourquoi le pays passera par le deuil, et tous ses habitants dépériront, jusqu'aux bêtes sauvages et aux oiseaux du ciel, les poissons de la mer disparaîtront aussi. Verset 3. Le jugement divin sera sévère, car il sera dirigé contre tout ce qui a vie. Ce châtiment est l'accomplissement des malédictions de la loi. Je lis un passage. « Vous serez maudits à la ville comme au champ. La malédiction reposera sur votre corbeille à fruits et sur votre pétrin. Le ciel au-dessus de vos têtes sera aussi dur que du bronze, et la terre sous vos pieds sera comme du fer. Au lieu de pluie, l'Éternel enverra sur votre pays de la poussière et du sable qui tomberont du ciel sur vous, jusqu'à ce que vous soyez exterminés. » Et un autre prophète écrit, « Je vais tout balayer de la surface de la terre, l'Éternel le déclare. Je balayerai les hommes de même que les bêtes. Je balayerai aussi les oiseaux dans le ciel et les poissons des mers, les objets de scandale et les méchants. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, l'Éternel le déclare. » Fin de citation. Je continue le texte. Mais que nul ne conteste, que nul ne fasse de reproche, car c'est contre vous, prêtres, que je suis en procès. Verset 4. Il va sans dire qu'à l'écoute du procès que leur faisait Osée, le peuple se rebiffait. Mais il ne lui est pas permis de s'opposer aux oracles du prophète qui parle au nom de l'Éternel. Puis Osée met dans sa ligne de mire les prêtres qui faisaient partie des chefs et de l'élite du pays, parce que, au lieu de faire respecter la loi de Moïse, ils faisaient comme tout le monde et se remplissaient les poches. C'était vrai aussi bien dans le royaume des 10 tribus du Nord que chez les voisins du Sud. Le prophète Jérémie, qui exerçait dans Juda, dit « Tous, petits ou grands, sont avides de gain. Tous, du prophète au prêtre, pratiquent la duplicité. » Fin de citation. Je continue le texte. En plein jour, vous trébucherez, les prophètes eux-mêmes trébucheront de nuit en votre compagnie, et je réduirai au silence Israël, votre mère. Verset 5. Osée annonce le jugement des prêtres et des prophètes, qui étaient les premiers coupables du fait de leur position d'autorité. Ésaïe, qui a prêché dans le royaume de Juda, écrit « Oui, prêtres et prophètes, les boissons fortes les égarent, le vin les étourdit, et ils titubent sous l'effet des boissons fortes. Ils s'égarent dans leur vision, et ils vacillent en rendant la justice. » Sous Jéroboam II, la classe religieuse faisait partie des officiels et des fonctionnaires du royaume. Ils étaient attachés au sanctuaire des idoles et à la cour du roi Jéroboam II, qui versaient leur salaire. Leur allégeance était à leur souverain et non pas à l'Éternel. Le prophète Amos, qui a précédé Osée, a déjà eu maille à partir avec eux au point où l'un des prêtres idolâtres lui a dit « Va-t'en, prophète, enfuis-toi au pays de Juda. Là-bas, tu pourras gagner ton pain en prophétisant, mais ne recommence pas à prophétiser à Bethel, car ici, c'est un sanctuaire du roi, c'est un temple du royaume. » Fin de citation. En Israël Nord, tous étaient coupables, les prêtres, les faux prophètes et le peuple. En conséquence, le jugement était inévitable. Aujourd'hui, la plupart des gens se lancent sur la route de la vie sans se soucier de Dieu, mais il attend chacun de nous au péage.